Vous pensez qu'on va réussir, vous, à mobiliser tout le monde à temps pour s'engager dans une société durable? À prendre une autre direction que celle qui trace tout droit sur ce début de la fin? Il y a 3 mois en arrière, quand j'ai interviewé l'intervenant de cette émission, Mathieu Burgalassi, le Covid-19 n'avait pas encore fait irruption dans nos vies et les questions précédemment posées ne résonnaient pas encore en France au travers d'événements inédits ni spectaculaires. L'urgence d'adapter notre système à nos besoins restait impalpable, invisible ou visible en demi-teinte seulement. Aujourd'hui, la crise sanitaire bouleverse notre quotidien et soulève ses problématiques de façon concrète. La vulnérabilité de l'hôpital public amène toujours plus à réaliser l'absurdité de la politique néolibérale. L'imprévu a démontré qu'il peut saturer et bloquer l'organisation de notre système qui se révèle fragile et que le manque de résilience met en péril. Tout le monde peut désormais entrevoir comment une situation d'équilibre peut basculer et par anticipation imaginer jusqu'à une situation chaotique. Il existe des personnes qui se préparent et s'équipent sans relâche à un éventuel effondrement de notre société, à ce qui adviendrait si l'État ne pouvait plus assurer ses missions envers la population. Avez-vous déjà entendu parler du survivalisme? Eh bien, c'est l'objet des recherches de Mathieu Burgalassi, anthropologue en sciences politiques, qui prépare une thèse intitulée « L'apocalypse comme utopie ». Ses terrains d'études se trouvent en France et aux États-Unis, où il se trouve d'ailleurs actuellement et d'où il a accepté de répondre aux questions de cet entretien. Merci à lui, merci à vous d'écouter cette émission et merci à Zoom Écologie de la diffuser sur les ondes parisiennes. Vous devez peut-être penser « l'apocalypse comme utopie ». Ça veut dire rêver d'une apocalypse? Ça peut être un idéal alors. Mais sans plus tarder, écoutons Mathieu Burgalassi nous parler de ses recherches qu'il mène depuis plusieurs années au sein des communautés survivalistes. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Tu prépares une thèse intitulée « L'apocalypse comme utopie ». Pourrais-tu nous donner un aperçu de ton travail?
Alors, je fais une thèse en anthropologie et en sciences politiques qui est consacrée au survivalisme. Donc, c'est un mouvement qui est constitué d'individus qui se préparent à un effondrement de leur société. Mon travail, c'est d'aller à la rencontre de ces gens, d'aller faire des entretiens avec eux, d'aller partager des moments de vie avec eux, participer à des stages, à des événements de leur communauté, d'essayer de les connaître et de comprendre ce en quoi ils croient. Pourquoi ils y croient et comment ça s'articule avec la société dans laquelle on vit tous.
Justement, on a communément l'image de personnes qui creusent des bunkers pour s'y réfugier en cas de catastrophe nucléaire. Est-ce que c'est ça être survivaliste aujourd'hui?
Alors justement non, pas du tout. Il y a cette image, un espèce de préconçu du fou, un gros stéréotype qui poursuit la communauté et qui fait beaucoup souffrir les gens qui en font partie. Parce que c'est très stigmatisant et très dévalorisant d'avoir cette représentation d'une personne un peu barjot qui va creuser un trou dans son jardin pour construire un bunker ou se balader en toge en hurlant « la fin du monde approche », etc. Et cette image d'irrationalité, en fait, elle correspond pas du tout à la communauté. Les survivalistes, c'est des gens qui sont en réaction à un contexte socio-culturel. Ils appartiennent pas à une marge totalement externe de notre société. C'est pas des gens qui ne sont non plus fous au sens pathologique. Hein. Les survivalistes, ils ne correspondent pas à ce qu'est pathologiquement la paranoïa ou je sais pas quelle forme de folie on pourrait leur attribuer. C'est une communauté. Et c'est une communauté qui considère qu'il faut se prendre en charge par soi-même, être capable, s'il y a une catastrophe, un événement, même un événement momentané, ça pourrait être à quelque chose comme ce qui s'était passé aux États-Unis pendant Katrina, c'était donc un ouragan avec des inondations qui durent plusieurs jours, où la police, les pompiers sont complètement débordés par les événements, et eux, ils se disent, voilà, moi je veux pas être la personne qui va être dépendante des autres, qui va être totalement dépendante des institutions, je veux être la personne responsable qui sera capable de se prendre en charge, et de prendre en charge aussi ma famille, de prendre en charge les gens que j'aime, de prendre en charge, pourquoi pas, mes voisins, etc.
Alors, qu'est-ce qu'il prévoit pour être capable de se prendre en charge?
Il y a une grande diversité de préparations qui dépend beaucoup de depuis combien de temps les gens sont dans le mouvement, et aussi des moyens économiques et du temps qu'ils peuvent consacrer à leur préparation. Donc ça va en général d'un sac qu'on met dans son dans sa penderie et dans lequel on va mettre des habits chauds, un imperméable, un peu de nourriture, un couteau, de la bâche, des trucs pour permettre vraiment une survie minimale, mais qui qu'on pourrait prendre avec soi et s'enfuir quelle que soit la catastrophe qui arrive, à carrément une maison à la campagne dans laquelle on va avoir un potager en permaculture, une éolienne. On va avoir des stocks de nourriture, des stocks d'eau, pourquoi pas un peu d'or pour troquer si jamais la société en vient à un effondrement vraiment très important, et peut-être aussi des armes pour se défendre, etc., etc. Donc la préparation des survivalistes, en fait, elle suit un spectre extrêmement large parce qu'il s'agit de couvrir une variété de scénarios qui est très importante, qui va des petits événements aux très grands événements. Donc à un petit effondrement, on pourrait dire à un très grand effondrement.
Tu parles d'armes ?
Mmh.
Tous ont des armes, ça veut dire ?
Alors, voilà, je pense que là, on touche un point assez important de ce à quoi se préparent réellement les survivalistes. Moi, quand je rencontre les survivalistes au départ, j'ai cette idée qu'on est sur des gens qui se préparent justement à des scénarios précis, qui se disent, bon, là, moi, je crois à la pénurie de pétrole, moi, je crois à un tremblement de terre, moi, je crois qu'il y aura une pénurie de nourriture, un effondrement économique, etc. En fait, c'est pas du tout le cas. Moi, les gens que je rencontre, ils vont tous croire à la même chose, qui est en fait qu'il faut pas se préparer à un scénario spécifique, mais qu'il faut se préparer aux conséquences d'une catastrophe. J'essaie de m'expliquer. C'est en gros le survivaliste, ce à quoi il se prépare, c'est pas vraiment la pénurie de pétrole ou la pénurie de nourriture, mais c'est les conséquences qu'aurait une pénurie de pétrole ou une pénurie de nourriture, c'est-à-dire pour eux une disparition des institutions comme l'État, la police, les pompiers, les hôpitaux, etc., etc., qui conduirait petit à petit à un monde sans loi, un monde où on serait confronté à des émeutes, à de la violence, et donc il faudrait être capable, à ce moment-là, de se protéger des moments d'émeutes et des moments de violence. Donc ce à quoi se préparent les survivalistes, c'est pas la fin du monde, c'est pas un effondrement spécifique, ce à quoi se préparent les survivalistes, en fait, c'est la guerre civile.
La guerre civile ?
Alors ouais, je sais que la guerre civile, c'est quelque chose qui est assez surprenant, qui peut même être assez choquant. Mais en fait, ça va avec une forme de représentation du monde où les survivalistes, en fait, se disent moi, je considère les individus comme n'étant pas dans une logique d'entraide. Je considère que les individus, c'est ce que disent les survivalistes, hein, c'est vont être dans une logique individualiste, d'affrontement des uns contre les autres si jamais quelque chose arrive. Et la seule chose qui empêche les individus de basculer dans une forme de violence des uns contre les autres, c'est la loi, c'est les barrières de la loi, les barrières des institutions, que sont la violence légitime de l'État, c'est-à-dire la police, l'armée et le gouvernement. Donc, pour eux, si jamais il y a une catastrophe, et qu'à ce moment-là, toutes ces institutions étatiques, tout ce qui est des institutions, des forces de police, etc., ne sont plus en mesure de venir intervenir en cas de problème, que les gens commencent à avoir faim, qu'il faut aller récupérer à manger ce qui reste dans les supermarchés, qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, bon, bah, leur scénario, c'est les gens ne vont pas s'entraider, ils ne vont pas se répartir le peu de nourriture qui restera, les gens ils vont commencer à s'entretuer, ils vont s'arracher ce qui restera, ils vont peut-être aller forcer la porte des appartements autour de chez eux pour essayer de piquer ce qu'il y aura chez les gens qui seront plus faibles. Et pour eux, donc, à ce moment-là, il faut se préparer.
Ce sont des personnes qui sont investies au quotidien et qui envisagent de prendre les armes comme vraiment un dernier recours. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des personnes qui s'engagent dès maintenant dans des transitions de nos habitudes, comme par exemple favoriser les énergies qui ne sont pas fossiles, modifier ses habitudes alimentaires, utiliser le vélo, et qui, en dépit de ça, décident de s'armer au cas où il arrive quelque chose, ou ce sont des personnes qui aujourd'hui ne sont pas du tout investies dans aucune alternative et la première chose qu'ils envisagent est effectivement les armes.
Je pense que c'est assez intéressant parce que justement, les survivalistes, ils ont beaucoup de points d'accroche avec d'autres mouvements qui seraient le mouvement écologiste ou le mouvement de la collapsologie qui se développe beaucoup actuellement, qui est un mouvement qui dit être une science de l'effondrement. La collapsologie, c'est quelque chose qui est apparu il y a 2-3 ans et qui dit être une science de l'effondrement, mais qui est très liée à l'écologie, très liée à des mouvements comme Terre et Humanisme de Pierre Rabhi, et qui essaye d'avoir une vision positive de ces effondrements à venir en essayant justement, comme tu dis, de mettre en place toute un processus de transition écologique, en ayant quand même en arrière-pensée l'idée qu'on va vers un effondrement qui va être assez brutal, assez dur, et qu'il va falloir s'en sortir. Et donc les survivalistes, ils sont quand même très proches de ces gens sur énormément de leurs pratiques. C'est-à-dire ils vont s'intéresser à la permaculture. Il y a des gens, c'est vraiment des érudits de la permaculture, de comment cultiver sur même des sols assez difficiles et où c'est très difficile de faire pousser des choses, comment construire une maison autonome, comment être le moins dépendant des énergies fossiles. C'est quand même une communauté qui a énormément de savoir et qui cultive énormément de savoir sur la transition. Et à ce niveau-là, il y a vraiment une approche avec les écolos et les membres de la collapsologie. Par contre, le glissement, il se fait justement sur la vision de l'humain. C'est-à-dire que là où les collapsologues et les écologistes vont généralement penser que l'humain, en cas de catastrophe, va aller vers l'entraide, c'est le titre même d'un bouquin de Pablo Servigne, hein, l'un des fondateurs du mouvement de la collapsologie, qui est c'est l'entraide, l'autre loi de la nature, c'est le titre du livre. Donc c'est l'idée, il y a une catastrophe comme Katrina, reprenons l'exemple, les gens ils vont pas commencer à se tirer dans les pattes, ils vont pas commencer à voler de la bouffe dans les magasins que pour eux, ils vont essayer de s'entraider, ils vont essayer d'aller sauver leurs voisins, celui qui a un bateau, il va prendre son bateau, il va faire des tours pour essayer d'aller récupérer les gens qui sont coincés sur leur toit, etc. Le survivaliste, lui, il pense pas à ça. Lui, pour lui, l'homme est un loup pour l'homme. Il a vraiment cette sensation que le jour où la catastrophe arrive, il sera livré à lui-même, peut-être avec le groupe de gens de confiance qu'il aura construit, mais pas plus, et qu'à ce moment-là, la seule solution, ce sera d'être capable de se défendre, et c'est là qu'on arrive aux armes. C'est pas ça qui occupe la majorité de leur préparation, mais c'est le point, en gros, de bifurcation entre l'écologie, la collapsologie et le survivalisme, c'est le fusil. À un moment donné, le survivaliste, il a besoin d'être capable de se défendre parce que sa vision de l'humain, c'est une vision qui est basée sur l'idée que l'homme, sans la loi, sans la police, c'est un animal violent et qu'il faut être prêt à s'en défendre.
Un entretien sur le survivalisme avec Mathieu Burgalassi, anthropologue en sciences politiques. Tu penses qu'ils sont combien en France ?
C'est vraiment très difficile à évaluer parce que la communauté, comme je l'ai dit, elle est souvent renvoyée au stigmate de la folie, souvent ridiculisée. Donc les gens, ils n'ont pas tout à fait intérêt à parler ouvertement du fait qu'ils sont survivalistes parce qu'ils ont peur de ce ridicule, ils ont peur d'être moqués. En plus de ça, quand même, dans le survivalisme, il y a ce qu'on appelle un peu la tendance de l'homme gris, qui consiste à dire moins je suis visible, moins les gens savent ce à quoi je me prépare, moins il y a de risques que le jour où il y a une vraie catastrophe, il y a des mecs qui débarquent chez moi pour péter ma porte parce qu'ils savent que chez moi, j'ai de la bouffe pour 3 mois, de l'eau pour 3 mois et peut-être un kilo d'or caché sous mon matelas, quoi. Je caricature un petit peu, mais c'est une idée où il faut se cacher. Donc, proposer un nom pour la communauté, c'est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit des événements comme le salon du survivalisme, on est sur quand même des événements publics où il y a des caméras de télé. Moi, la première fois où j'y suis allé, je pensais qu'il y aurait personne.
8300 le salon était plein. En 2018, ils annoncent.
Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Et le salon était plein, tous les jours il était plein, les conférences elles étaient remplies, il fallait rester debout, on pouvait pas s'asseoir. Il y a quand même du monde qui est prêt, alors que pourtant on est sur une pratique qui est habituellement cachée, mais il y a quand même du monde qui est prêt à se déplacer à Paris, à aller faire le tour du salon, à malgré la présence des caméras de TF1, de Canal+, etc. Donc, je pense que si on ajoute à cette communauté qui est prête à se montrer, tous les autres que moi je rencontre sur mon terrain, qui sont des gens qui jamais de leur vie n'accepteraient d'aller dans un événement public, bon, ben, je pense qu'on est sur une communauté très nombreuse.
Un des organisateurs, justement, du Salon du Survivalisme annonce le chiffre de 100 000 à 150 000 personnes en France.
À mon avis, il est en dessous. À mon avis, il est en dessous. Je pense qu'on est sur plus que ça. Il n'y a qu'à voir les ventes de livres comme les livres de Piero San Giorgio sur le survivalisme. C'est quand même des grosses ventes, quoi. À une époque où on peut pas dire que l'industrie de l'édition soit l'industrie qui vende le plus. Bon, bah, les livres sur l'effondrement, les livres de Laurent Oberton ou Piero San Giorgio, c'est quand même des livres qui se vendent très bien. Donc, à mon avis, on est quand même sur un imaginaire qui touche beaucoup de gens. Mais actuellement, on n'a pas le moyen d'évaluer réellement, en tout cas scientifiquement et de manière valide, la taille de la communauté. Je pense quand même, si on se base sur les chiffres de vente, sur la fréquentation des sites internet, sur la fréquentation des événements, des stages, etc., qu'on est sur une communauté quand même assez importante.
Toi, comment tu as pu les rencontrer? Comment tu as eu l'idée de traiter du sujet du survivalisme?
Alors, comment j'ai commencé à travailler là-dessus? En fait, j'ai commencé à travailler, j'étais... À l'époque, je travaillais sur le Krav Maga, qui est une pratique de self-défense israélienne. Et du coup, j'allais à des stages de Krav Maga, je pratiquais des cours, etc. J'en ai fait assez longtemps avec la communauté, donc c'est des gens que je connaissais assez bien, que je voyais parfois plusieurs fois par semaine puisque je participais aux entraînements. Et un jour, je me suis retrouvé embarqué à un stage de tir avec un instructeur, et c'était un stage de tir type survie, où le scénario que proposait l'instructeur, c'était bon, ben voilà, là on est dans une situation d'effondrement apocalyptique de la société. Donc la règle, c'est tuer ou être tué. Et donc toutes les techniques que je vais vous montrer, elles s'ancrent dans ce contexte. Et donc on fait 4-5 heures d'entraînement au tir, mais en mode de tir de guerre, quoi. C'était vraiment apprendre à tuer quelqu'un, apprendre à arriver derrière une sentinelle, je sais pas, peut-être l'étrangler, la mettre au sol et puis tirer sur la cible comme si la cible c'était une personne. Enfin, il y avait vraiment toute une logique extrêmement violente, extrêmement brutale, qui sortait totalement du contexte habituel du Krav Maga, qui est plutôt dans la légitime défense de rue, qui est de dire bon bah voilà, tu te fais prendre un coup de poing en sortant d'un bar, bon bah tu défends et tu rends le coup. Là, on était sur une logique d'attaque déjà, et ensuite sur des attaques d'une extrême violence. Donc je me suis demandé, enfin, oui.
Je t'en prie, continue.
Voilà, je me suis demandé à ce moment-là, qu'est-ce que ça voulait dire se préparer à la fin du monde? Qu'est-ce que ça voulait dire la violence des techniques qui étaient utilisées à ce moment-là pour se préparer à la fin du monde? C'est parce que dans ces univers projectifs, tout devient légitime. Parce que quand on commence à imaginer la violence qui pourrait nous arriver le jour où il y a plus de loi, plus de police, bon, bah, toutes les violences pour s'en défendre deviennent légitimes. Et donc, j'ai rencontré plusieurs des membres qui pratiquaient les membres des clubs de Krav Maga. J'en ai rencontré plusieurs qui étaient survivalistes. On a commencé à faire des entretiens. J'ai rencontré d'autres gens de fil en aiguille. Ensuite, moi, je suis allé à des événements. J'ai participé à des stages. Et en fait, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont ouvert petit à petit des portes et qui m'ont permis de découvrir la communauté par l'intérieur, on va dire.
Donc, ça veut dire que aujourd'hui, en France, quotidiennement, des gens se préparent à une guerre civile qui les opposerait à leurs voisins, à leurs concitoyens.
Voilà, je sais que c'est choquant et à raison. On est réellement en fait, ouais, sur des gens qui se disent et qui pensent tous les jours à qu'est-ce qu'ils devront faire le jour où il y a un basculement violent et donc ils sont concrètement exactement en train de se préparer à la guerre. Et ça, en fait, pour le comprendre, il faut comprendre un truc assez important, c'est que Le survivalisme, c'est pas une idéologie, enfin c'est pas en tout cas une idéologie comme on pourrait l'entendre au sens traditionnel du terme. Le survivalisme, avant tout, c'est une émotion. Donc ce que ressentent les membres de la communauté, c'est une peur viscérale, une peur extrêmement profonde qui les travaille tous les jours, qui leur dit que peut-être qu'un jour ils vont se retrouver à devoir tuer ou être tués, mais que peut-être aussi leur famille, leurs enfants, ils vont se retrouver face à une bande de gars qui va défoncer leur porte et essayer de les assassiner. Et eux, ils se disent, mais il faut que je sois capable de me protéger. Il faut que je cherche à me protéger. Parce que être survivaliste, en fait, c'est très difficile. C'est quelque chose qui demande énormément de temps, énormément d'implication, qui demande de mobiliser énormément de savoir, qui demande d'utiliser énormément de ses ressources économiques, non pas pour se distraire, non pas pour consommer pour son plaisir, mais pour se préparer, donc pour stocker des boîtes de conserve, pour acheter peut-être une voiture qui marchera sur certains terrains, pour acheter une maison dans laquelle on va fortifier, etc. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de place, qui prend énormément de temps, qui devient central dans la vie des gens. Et si ça prend autant de place, c'est pas parce que ces gens-là, ils croient vaguement à un truc un peu flottant dans l'air. Ah, peut-être qu'il va se passer quelque chose et j'ai envie d'aller taper sur mon voisin. C'est pas du tout ça. C'est des gens qui ressentent viscéralement et profondément une peur et qui essayent de s'en prémunir de cette peur.
Tu penses qu'ils sont vraiment tous comme ça? C'est-à-dire, là, moi, j'ai sur un entretien du Figaro, Clément Champeau, un des organisateurs du Salon du survivalisme, dit, je le cite, « On ne rencontre pas des gens qui ont peur, mais des citoyens conscients des risques au Salon du survivalisme. »
Ouais, bah, ça, c'est typique, en fait, de ce qui se passe en ce moment dans la communauté. En fait, c'est un peu jouer sur les mots, parce que être conscient des risques, c'est forcément être travaillé sur la peur. Parce que penser au risque, c'est essayer de s'en prémunir, et donc c'est travailler sur quelque chose qui est de l'ordre de la peur. Mais en fait, ce que font les membres, les organisateurs du Salon du survivalisme, et je le sais parce que je les ai rencontrés, j'en ai interviewé certains d'entre eux, en fait, ils cherchent à euphémiser l'image violente de la communauté. Les survivalistes, ils ont été stigmatisés pendant longtemps, et les membres de la communauté survivaliste en France actuellement, en fait, ils ont compris qu'ils ont tout intérêt à aller plus vers le côté écolo-collapsologue que vers le côté violence qui peut caractériser le mouvement. Donc on met un peu de côté, quand on parle aux médias, quand on parle aux gens qui sont hors de la communauté, la question de la guerre civile, la question des armes, et à la place, on met plutôt en scène des choses qui font tout à fait partie du mouvement, mais qui n'en sont pas le centre et qui n'en constituent pas forcément le cœur. Ça va être d'autres formes de préparation, ça va être, comme je disais, la permaculture, ça va être les énergies renouvelables, etc., etc., qui sont beaucoup plus proches de la collapsologie et d'un discours consensuel qu'on peut faire passer dans les médias. Et ça fonctionne parce que l'image des survivalistes depuis le salon du survivalisme, elle s'est extrêmement adoucie. On voit dans les médias, moi quand j'ai commencé mon terrain, les survivalistes, ils étaient décrits comme une bande de tarés avec un fusil prêt à tuer n'importe qui voudrait s'approcher de leur poule. Et maintenant, on a quand même une image de gens, voilà, des citoyens prévoyants, un peu écolo, un peu sympa, pas des gens bien dangereux, pas des gens avec des fusils. Mais ça, il faut s'en méfier parce qu'en fait, c'est une image fabriquée par la communauté, c'est une façade qui est mise en scène pour rassurer. Mais derrière, moi, la communauté, je la connais, les gens, je les rencontre, j'ai fait énormément d'entretiens. Je suis allé chez les gens.
Combien d'entretiens?
Je pense qu'on est, on est sur une soixantaine d'entretiens. Ce qui, pour un travail anthropologique, c'est beaucoup, hein, puisque c'est des entretiens parfois de 3 heures. Les gens, on essaie de vraiment les connaître. On fait pas une interview à la volée. Enfin, on essaie d'éviter les interviews à la volée. Ça peut arriver, mais, donc en général, c'est quand même quelque chose d'assez poussé.
Tu les suis dans leur quotidien?
C'est arrivé, oui. C'est arrivé qu'il y ait des gens, voilà, que je connaisse vraiment bien, dont je connaisse le quotidien, dont je connaisse les mécaniques, même certains dont j'ai pu presque suivre, on va dire, le développement de la peur, le moment où on passe de peut-être il va arriver quelque chose, à je commence à acheter des bouquins, à me renseigner, à je
D'où
commence à aller à des stages de bushcraft, etc.
D'où vient cette peur alors?
Alors ça, c'est une question qui est assez complexe. Comme je disais tout à l'heure, les survivalistes, c'est une émotion, c'est une peur viscérale dont on cherche à se protéger. Et ça pose une question, parce que cette peur, a priori, moi je dis, c'est pas un délire individuel. Ces gens sont pas fous. Ils inventent pas cette peur, elle sort pas de nulle part. Donc si elle sort pas de nulle part, c'est qu'elle est produite, et elle est produite par quoi? Bah, ma réponse à moi, c'est de dire qu'elle est produite par un discours institutionnel, médiatique et politique. Et ce discours, c'est ce que j'appellerais le discours sécuritaire, ou on pourrait l'appeler le discours peut-être même insécuritaire. C'est-à-dire que, en fait, avant, la question sécuritaire, la question de l'insécurité, de la violence dans la rue, du terrorisme, du danger, en fait, sur les individus au quotidien, c'était un thème central de l'extrême droite. C'était le thème de campagne du Front National, si on veut. Mais depuis les années 90-2000, en fait, tous les partis politiques, vraiment tous les partis politiques de la gauche à la droite, peut-être à l'exclusion des partis d'extrême gauche, ont commencé à reprendre les thèmes de l'insécurité pour les mettre au centre de leur campagne. Ça, en fait, ça s'est fait pour une raison assez simple, c'est que avec la mondialisation, c'est devenu de plus en plus difficile pour les hommes politiques de prétendre avoir un contrôle sur la question économique ou sur la question sociale. Tout simplement parce que c'est des questions qui sont maintenant gérées par des groupes supranationaux comme l'Union européenne, comme des ONG, comme les marchés financiers. Donc c'est ridicule pour un homme politique de prétendre contrôler la finance quand il y a les marchés financiers et l'Union européenne. Donc qu'est-ce qu'on prétend financer, qu'est-ce qu'on prétend contrôler? Eh bien, ça va être la sécurité des gens. Et donc on va reprendre de plus en plus des thèmes qui étaient les thèmes de l'extrême droite, qui vont être les thèmes de la délinquance, du terrorisme et de la menace migratoire. Et on va en faire les thèmes centraux du monde politique. Un exemple, c'est Nicolas Sarkozy qui pendant sa campagne et ensuite pendant sa présidence, mettait constamment en scène une délinquance, lui disait une délinquance d'origine étrangère. C'est de ça qu'il parlait, c'est ses mots à lui. Il y avait ses discours où il disait aux gens « Ah, vous en avez marre de la racaille, on va la nettoyer au Karcher. » Ben ça, c'est un discours de maîtrise. C'est dire « Voilà, moi, homme politique, je suis capable de maîtriser un risque auquel vous êtes exposé, vous, population. » Et donc, ce risque, c'est quoi? C'est la délinquance, c'est la violence, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous poursuit encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui a traversé le quinquennat de François Hollande et qu'on retrouve aujourd'hui chez Emmanuel Macron. Par exemple, en septembre dernier, on est en pleine crise sociale. Il y a eu les gilets jaunes, il y a des manifestations pour les retraites, il y a les professeurs en grève, il y a énormément de mouvements sociaux. Et Macron, sur quoi est-ce qu'il choisit de s'exprimer? Eh bien, il dit qu'il va durcir le ton, et là encore, c'est ses mots, sur les problèmes liés à l'immigration non contrôlée. Et c'est repris ensuite par certains de ses ministres qui disent « Ah oui, parce que dans les quartiers, l'immigration non contrôlée, ça conduit à la délinquance et les gens en souffrent, etc. etc. » Et donc, lui, à son tour, au lieu de s'adresser politiquement et de mettre en scène une maîtrise des questions sociales et des questions économiques sur lesquelles la population l'interpelle par la manifestation, lui, en fait, sur quoi est-ce qu'il met en scène son pouvoir? Il met en scène son pouvoir sur la question du contrôle de l'insécurité. Mais ça a un effet. Ça a un effet, ce qu'on appelle un effet performatif, c'est-à-dire que le discours d'une politique, c'est pas un discours neutre qui décrit une réalité. En vérité, l'insécurité, c'est toujours quelque chose qui est de l'ordre du sentiment, de l'émotion. c'est très très compliqué à quantifier. Mais quand les hommes politiques parlent en boucle de l'insécurité, que les médias qui soutiennent ces hommes politiques reprennent ces thèmes-là et en font le centre de leurs journaux télé, en font le centre de petits documentaires qui sont passés à droite à gauche sur la délinquance dans les quartiers, les mafias roms. Je me rappelle à l'époque de Nicolas Sarkozy, c'était toujours sur les roms que se faisaient les discours médiatiques. Et ben ça, à la fin, chez les gens, ça crée une peur. Parce que on finit par avoir l'impression que c'est réel, parce que bah, c'est répété dans tous les médias, c'est répété par les hommes politiques, et donc ça finit par s'inscrire dans notre expérience quotidienne d'avoir l'impression de vivre dans un milieu qui est insécuritaire. Donc le premier constat, si tu veux, pour comprendre pourquoi les survivalistes ils ont cette peur, c'est d'abord de se dire qu'ils sont eux-mêmes spectateurs de ces politiques de la sécurité qui mettent en avant des thèmes en permanence liés à la violence et au danger. Donc, comme ce danger est omniprésent, c'est absolument pas illogique d'avoir la sensation d'être soi-même en danger.
Dans les entretiens de ce contexte de politique sécuritaire ?
Ouais, justement, oui. Il m'en parle tout le temps. C'est quelque chose qui revient constamment quand je discute avec les survivalistes. Si tu veux, là, je peux regarder. J'ai un extrait d'entretien d'un gars justement qui me parle de ça. Donc, c'est des extraits d'entretien. Je discute avec un survivaliste et je lui demande un peu comment et qu'est-ce qui l'a amené à rentrer dans le mouvement, etc. Et donc, c'est un jeune homme. Et il me répond pour être très honnête avec toi, ce qui m'a fait basculer dans le survivalisme, c'est l'atmosphère qu'on trouve en France aujourd'hui. Je te cache pas que ce qui s'est passé, les attentats, tout ça, y a fait pour beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus comme il y a 100 ans. On sent que les tensions sont de plus en plus fortes entre certaines communautés, que les gens sont de plus en plus violents. On sent que le climat politique est mauvais pour tout le monde. Et puis après, c'était mon avis personnel, mais je ne serais pas surpris de voir un jour éclater un conflit civil, que ce soit dans quelques mois ou dans un ou deux ans. Et donc après j'ai un deuxième extrait d'entretien, c'est avec la même personne, et je lui demande en fait à quel moment tout ça, il a commencé à avoir ce sentiment que la France était en train de changer, et il a commencé à se sentir cette insécurité quotidienne, et il me répond, il était parti vivre en Roumanie un moment, et donc il rentre en France, et il rentre à Lyon en 2015. Il raconte, quand je suis revenu à Lyon en 2015, et depuis que je suis revenu, j'ai retrouvé une ambiance où les choses sont encore pires qu'avant, où les choses se sont aggravées. J'avais déjà une opinion avant de quitter la France, mais en revenant de Roumanie, j'ai retrouvé un climat encore plus tendu. Ça m'a ouvert les yeux. Et tu vois, on est sur des discours où tout de suite, il y a cette sensation qu'il y a un climat délétère, que la France, elle a petit à petit basculé dans une insécurité de plus en plus grande, de plus en plus profonde, dans de plus en plus de violence. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Si on regarde concrètement, les gens sont pas exposés à plus de dangers ou à plus de violence. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre du quantifiable. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, de l'impression quotidienne. Et cette impression quotidienne, en fait, elle est largement fabriquée par un discours qui modèle le réel, qui est celui du monde politique relayé par le milieu médiatique.
Selon toi, pourquoi mettent-ils toujours en avant des questions sécuritaires ?
Alors justement, comme je disais, le premier constat, c'est justement ces politiques sécuritaires qui mettent au centre en permanence ces questions de la sécurité, de la délinquance, du danger, etc. Et à ça s'ajoute un deuxième constat, qui est celui en fait qu'on est dans une forme politique qui joue de plus en plus sur la peur. C'est-à-dire qu'on est sur des pouvoirs actuellement, quand je parle de pouvoir, je parle de l'État, je parle des partis politiques, je parle des gens, des députés, des gens à l'Assemblée nationale, etc., qui ne se mettent plus en scène comme étant forcément en capacité de protéger les individus. Avant, on avait des hommes politiques qui voulaient toujours jouer l'image de la force. Des gens, on imagine le général de Gaulle, si tu veux, qui était toujours en train de dire « Non, mais on va vous protéger, c'était très paternaliste, et vous risquez rien avec nous, et toute leur légitimité tenait à leur capacité à protéger. » Et nous, on se retrouve avec des hommes politiques qui vont être plus du tout, en fait, dans ce type de discours. Je te donne un exemple. On est après les attentats du Bataclan, et on a Manuel Valls qui fait un discours à l'Assemblée nationale. Et pendant ce discours, il dit, Il y aura d'autres attentats, il y aura d'autres innocents tués. Nous devons non pas nous habituer, jamais, mais apprendre à vivre avec cette menace. Et ça, c'est très intriguant, en fait, pour un chercheur, parce que normalement, la garantie de sécurité, elle est essentielle pour maintenir la légitimité de l'État. Et donc là, on se dit, mais en fait, il garantit pas du tout la sécurité. Hobbes, il disait, le salut du peuple est la loi suprême. Bon, ben là, clairement, le salut du peuple n'intéresse pas du tout Manuel Valls. Il dit, il y aura d'autres attentats, il y aura d'autres innocents tués. Il fait un espèce d'aveu d'échec par avance. Et ça, on peut se demander, mais pourquoi les gens, ils disent pas, si t'es pas capable de nous protéger, si t'es rien capable de faire pour empêcher les attentats, peut-être qu'il faudrait que tu dégages et que quelqu'un d'autre prenne ta place. Parce qu'en fait, jouer avec la peur, pour les hommes politiques, ça s'avère être une ressource. Parce qu'en gros, la peur, elle va imposer une sorte de dilemme. Elle va imposer une vision du monde qui va être basée sur la subversion ou la conservation d'une réalité sociale. Ça va être l'idée que, en gros, il va y avoir des grosses catastrophes, on peut rien faire pour les empêcher, mais si je suis pas là, ça va être encore pire. Donc, à ce moment-là, la peur, elle va plus rendre l'État illégitime, parce qu'elle va fabriquer des citoyens qui demandent eux-mêmes, en fait, un renforcement du contrôle sécuritaire. Je vais peut-être prendre un exemple pour que ce soit un peu plus clair. On est donc juste après les attentats du Bataclan encore, ça fait suite à ce qui se passe avec juste après le discours de Manuel Valls que je viens de citer. Et il y a l'état d'urgence qui est installé donc pour répondre à un moment d'émotion extrêmement forte en France, à savoir un attentat terroriste, de nombreux innocents ont été tués, c'est un choc national, et donc on passe l'état d'urgence qui est, on le rappelle quand même, un moment où les citoyens abandonnent ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire la démocratie. On donne en quelque sorte les pleins pouvoirs à l'État parce qu'on considère qu'il doit nous protéger. Donc on ne peut pas donner plus. Et à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est que la force qu'on donne à l'État, elle soit utilisée contre le terrorisme. Que font les membres du gouvernement? Ils vont utiliser l'état d'urgence pour assigner des militants écologistes à résidence pour les empêcher de manifester dans le cadre de la COP21. Donc ils utilisent l'état d'urgence de la manière la pire possible, c'est-à-dire pour museler une opposition politique. Donc ils utilisent ce pouvoir qu'on leur a donné contre la démocratie elle-même. On pourrait s'attendre à ce que ça entraîne une forme de protestation populaire, que les gens disent « Mais attendez, on vous a donné ce qu'on a de plus cher, on vous a donné la démocratie pour que vous nous protégiez, et vous utilisez ça pourquoi ? Pour faire taire des écologistes ?» Mais pas du tout, en fait, parce que la peur, elle est tellement présente, elle est tellement importante, on a tellement cette sensation que l'attentat, il va se reproduire, qu'en fait, on délègue notre pouvoir et on ne s'insurge pas. Et jouer avec cette sensation qu'une catastrophe pourrait arriver, que les choses pourraient déraper, c'est ce que font en fait les hommes politiques depuis de plus en plus d'années. C'est ce qu'on voit dans le mouvement des Gilets jaunes, où on a utilisé l'image du casseur pour jouer sur les peurs, pour dire aux gens « Mais attendez, les Gilets jaunes, on nous les a présentés, mais c'est fou qu'on nous les a présentés au début du mouvement. On nous présentait des gens, c'était presque des skinheads, quoi. Ils étaient antisémites, ils étaient homophobes, ils allaient tabasser tout le monde, on a parlé de terrorisme. » Et ça permettait de justifier une répression extrêmement violente, et de contourner complètement les questions sociales, qui étaient les questions de fond en fait du mouvement des Gilets jaunes, en justifiant la violence par la peur.
Les survivalistes se disent politisés ?
Les survivalistes, ils ne se pensent pas politiques. Justement, ils disent que justement, ils sont dans une émotion. Ils sont dans la peur. Ce que je te décris depuis tout à l'heure, en fait, c'est une infrastructure de la peur. C'est quelque chose où on fabrique de la peur. Donc les survivalistes, eux, ils se reconnaissent dans aucun parti politique. Parce que, à leur sens, ce qui les engage dans leur mouvement, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de matériel, qui n'est pas de l'ordre idéologique, comme je disais, qui n'est pas quelque chose porté par un parti politique, mais qui est avant tout pour eux une réalité. C'est une réalité matérielle indiscutable, à savoir l'insécurité, le fait qu'ils sont en danger. Pourquoi ? Parce que l'État ne peut pas les protéger, comme je t'expliquais tout à l'heure, et par-dessus ça, en plus, il y a de l'insécurité de plus en plus présente. Donc tu vois, le discours politique, il fabrique cette peur, mais en même temps, pour ceux qui la vivent, c'est pas concrètement vécu comme un discours politique, c'est vécu comme une réalité sociale. Ça, c'est très important.
Et concrètement, dans leur tête, comment est-ce qu'ils identifient leur cible de tir quand ils parlent entre eux ? Parce que là, on parle beaucoup d'insécurité, ils ont une image bien précise ?
Le terme cible de tir est assez violent, mais peut-être que dans le fond, il est pas si faux. Parce que les survivalistes, ouais, ils pensent la guerre civile, on l'a dit. Ils pensent cette guerre civile liée à justement une norme sécuritaire qui est anxiogène. Mais à un moment donné, du coup, bah, ça va entraîner une logique où il faut, comme tu le dis, trouver sur qui on va tirer. Parce que quand tu te prépares, à un moment donné, bah, tu as besoin de connaître ton ennemi. C'est la base de l'art de la guerre. Hein. Donc, les survivalistes, à quoi est-ce qu'ils pensent quand ils pensent justement à cette fameuse guerre civile ? Bah, eux, ils vont penser une guerre civile raciale. Et ça, je sais que ça va faire grincer des dents les survivalistes qui nous écoutent, mais en vrai, c'est une logique qui se retrouve systématiquement dans la communauté.
Qu'est-ce qui
je peux te lire un extrait d'entretien, justement, j'ai un extrait d'entretien où on retrouve, donc c'est un survivaliste qui me parle de sa peur, justement, de la guerre civile. Et il me dit ça. Le danger, c'est la guerre civile. Ça peut partir de n'importe où. Ça peut partir d'une patrouille de flics qui va aller dans un quartier, qui va péter un plomb et se mettre à tirer sur la foule. Ça peut partir d'une bande de jeunes qui va violer et tuer une famille, et on va assister à une rébellion des vrais Français. Ça peut partir d'un attentat dans une église, comme il y a eu à Rouen, et on va voir des groupes identitaires se lever, dire « ça suffit » et aller affronter des bandes. Pour être vraiment clair, j'imagine une guerre ethnique, tout simplement. Une guerre ethnique entre la population, disons, blanche européenne et une population maghrébine et africaine.
Oui, effectivement. Donc, clairement, ces gens sont en train de préparer une guerre raciale.
Voilà, on est clairement dans une guerre raciale, et quand je dis guerre civile raciale, bah, c'est une guerre raciale contre qui ? Contre son voisin, quoi. C'est vrai, c'est pas la guerre contre un autre pays ou quoi que ce soit, c'est vraiment les gens qui font partie de sa communauté, qui sont font partie complètement de la population française, mais qui sont identifiés comme appartenant à une forme d'altérité, à une forme de différence en raison de leur couleur de peau ou de leur adhésion à une culture qui n'est pas la culture dans laquelle se reconnaît la personne que j'interviewe. Et ça, peut-être que ça mérite aussi un petit point, c'est-à-dire que le racisme auquel je suis confronté, moi, il prend deux formes. Il y a le racisme biologique un peu traditionnel qui consiste à dire il y a les blancs, les noirs, etc., etc., en faisant une espèce de liste de couleurs de peau et en prétendant qu'il y a des différences biologiques entre les individus selon leur couleur de peau ou selon la zone dans laquelle ils sont originaires, ce qui est tout à fait faux, évidemment, hein, qui, ça a été complètement démonté par les conférences de l'UNESCO en 1945, hein, et même avant, c'est une fiction biologique, hein, la question de la race, c'est totalement inexistant, mais c'est quelque chose qui fonctionne encore chez certaines personnes, et comme en France, on est quand même sur des gens... Quand même, beaucoup de gens sont allés à l'école, ont quand même suivi des cours de biologie, etc. Ils sont quand même capables de comprendre que la race, c'est pas quelque chose qui existe et que ça fait pas vraiment sens. En plus, il y a un discours antiraciste quand même en France qui existe encore un petit peu, qui fait que c'est pas facile d'exprimer des opinions aussi violentes dans l'espace public. Ben, le racisme, il a pris une autre forme déguisée, qui est ce que j'appelle le racisme culturel, qui consiste à rejeter des gens qui appartiennent à des cultures dans lesquelles on ne se reconnaît pas. C'est ce qui se passe très clairement avec les musulmans. C'est au lieu de dire les Arabes, comme disaient les membres du Front National dans les années 80, bon, maintenant on dit qu'on est contre l'islam et les musulmans. C'est une manière déguisée en fait de s'attaquer à la même population, mais au lieu de la rejeter en raison d'un racisme biologique, on la rejette en raison de sa culture qui serait totalement inassimilable à la culture française.
Change.
un entretien sur le survivalisme avec Mathieu Burgalassi, anthropologue en sciences politiques. Du coup, ce racisme, tu penses qu'il apparaît comment ?
Justement, c'est une bonne question parce que, comme on l'a dit, les survivalistes, ils sont pas forcément politisés, donc ils appartiennent pas forcément à des partis politiques. Donc c'est pas un discours qui est en eux de base. Les survivalistes, c'est pas tous des racistes de base, c'est pas tous des anciens skinheads ou des membres du Ku Klux Klan. C'est des gens, en fait, leur vision du monde, comme j'explique depuis le départ, elle est quand même largement produite et dépendante d'un discours qui est un discours fait par les institutions. Et donc le discours raciste qu'on voit et que je retrouve dans la communauté, c'est un discours qui est produit, en fait, par l'État et par les institutions politiques. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est des États qui sont fondés sur la peur, qui sont fondés sur la sécurité. Mais c'est des États, donc, qui ont, dans leur ADN, une forme de racisme. Parce qu'un État fondé sur la peur, c'est un État qui est fondamentalement raciste, parce qu'il a besoin, en fait, à un moment donné, de se légitimer par une lutte contre un ennemi. Je m'explique, c'est en gros, quand tu es l'homme politique qui fait sa campagne, comme Nicolas Sarkozy, sur la gestion d'une population et de l'insécurité, à un moment donné, tu as besoin d'agir sur quelque chose. Et quelque chose, c'est quoi quand on parle de sécurité ? Ben, c'est quelqu'un, c'est une population. Donc que fait Nicolas Sarkozy ? Ben, il dit la délinquance d'origine étrangère. Il dit donc il y a la délinquance, c'est l'insécurité. Et d'où est-ce qu'elle vient cette délinquance ? D'une population qui est rendue responsable des peurs et de l'insécurité, donc des étrangers. Ça veut dire qu'on fabrique des groupes à risque qui vont être des populations qui vont devenir la représentation de la menace dans la tête des gens. Donc on associe une forme, un type de risque, un type d'agression, un type de violence à des gens. Je pense que l'exemple le plus net, c'est le terrorisme en France, où en fait, on associe totalement le terrorisme à la menace islamique. Donc moi, ce que je dis, c'est bien sûr les attentats ont eu lieu, c'est arrivé, c'est pas la question se pose pas. Il y a eu des attaques, mais pourquoi est-ce que déjà, première question, pourquoi l'attentat, c'est ce qui va mobiliser le plus une charge émotionnelle importante. Pourquoi c'est ce qui va nous faire réagir à ce point-là? Ben parce que c'est un risque qui va être mis en scène, une violence qui va être mise en scène dans les médias et par le monde politique, de manière à porter une charge émotionnelle extrêmement importante. Ce que j'essaie de dire, en gros, c'est que les risques qui mobilisent notre attention ne sont pas ceux qui représentent forcément la menace la plus importante, mais ceux qui mobilisent la charge émotionnelle la plus forte. L'exemple pour comprendre ça, c'est si je te demande si tu as plus peur des requins ou si tu as plus peur des vaches, tu me réponds...
Les requins.
Voilà, c'est normal, parce que imaginez se faire choper la jambe par un requin avec des dents énormes et entraîner sous l'eau, c'est terrifiant. Imaginez traverser un champ et se faire charger par une vache, on n'y pense même pas. Donc il y a une charge émotionnelle associée à un risque qui va en fait changer la réalité statistique, qui est que en fait il y a bien plus de gens tués chaque année par des vaches que par des requins. Bon, ben quand on parle du terrorisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui sont tués dans des attentats, mais en fait c'est un risque extrêmement faible. Mais c'est quelque chose qui est mis en scène. On pourrait imaginer que d'autres risques provoquent en fait la même charge émotionnelle. Par exemple, quand quelqu'un comme Cédric Chouviat qui a été tué par la police, le livreur qui a été tué par la police, là il y a une semaine de ça, on pourrait imaginer que ça mobilise la même émotion nationale, qu'on se dise « Ah non, mais les gens qui nous protègent nous tuent », et donc d'un coup, ça créerait un mouvement national d'indignation médiatique et politique. Ou que quand il y a des accidents industriels avec des gens qui sont empoisonnés et qui meurent à cause de leur travail, ça provoque la même émotion. C'est pas le cas. Donc, ça veut dire que notre relation à l'attentat et à la violence terroriste, elle est produite. Le truc, c'est que quand on pense le terrorisme, donc qui devient le symbole de l'insécurité dans nos têtes, on le lie à une seule forme de terrorisme, qui est le terrorisme islamique. On dit le seul terrorisme qui existe, c'est le terrorisme qui est produit par les gens liés à l'islam. Mais en fait, en se faisant, on nie une réalité, parce qu'on nie l'existence du terrorisme d'extrême droite. Si je te demande quand a eu lieu le dernier attentat d'extrême droite en France, est-ce que tu peux me répondre ?
Je saurais pas te dire, non.
Il y en a eu un en juin 2019 et un en octobre 2019. Donc en octobre 2019, on a un ancien candidat du Front National qui s'appelle Claude Sinqué, qui a tenté d'incendier une mosquée à Bayonne et qui a tiré sur des fidèles en les blessant gravement. Et en juin 2019 à Brest, on a un homme qui a tiré sur un imam. Et ça, c'est des choses dont on se rappelle pas. C'est des choses qui ne marquent pas notre expérience du quotidien. Parce que, en fait, c'est des attentats qui ne sont pas vécus comme des attentats, on va dire. C'est l'œuvre d'un déséquilibré, c'est un acte isolé. On ne les relie pas. Donc, on n'a pas de ressenti de ce terrorisme. Le seul ressenti qu'on ressent, le seul terrorisme qu'on ressent, c'est celui du terrorisme islamique. Et donc, en concentrant notre attention en permanence sur le terrorisme islamique depuis 2015, on a fabriqué un groupe à risque. C'est-à-dire, on a fabriqué un groupe qui est une menace spécifique, le terrorisme, associé à un groupe spécifique, qui sont les gens qu'on rend responsables de l'insécurité. Donc, qui sont-ils? Ben, les gens liés de près ou de loin à l'islam dans la tête des médias et des politiciens, les immigrants et les étrangers non communautaires, c'est-à-dire le jeune de banlieue, le musulman et le sans-papier, qui sont tous soupçonnés de pouvoir, à un moment donné ou à un autre, se radicaliser.
Donc tu penses que s'il n'y avait pas ce phénomène-là, les survivalistes n'existeraient pas, ils ne penseraient pas à la guerre civile?
Ils penseraient à une autre forme de risque, ils penseraient pas à une forme de guerre civile raciale. Je pense que l'idée de la guerre civile raciale, en fait, elle est provoquée par ces discours politiques et ces discours médiatiques. La guerre civile raciale, c'est pas une invention des survivalistes. En fait, vouloir se protéger d'une population que l'on croit être un risque, c'est répéter le discours politique actuel, qui n'est pas le discours politique de l'extrême droite, enfin, pas que le discours politique de l'extrême droite, mais le discours politique de l'entièreté du spectre politique, en allant d'anciens membres du Parti Socialiste comme Manuel Valls, à des gens qui sont censés être modérés comme Emmanuel Macron, en passant par Nicolas Sarkozy et en arrivant chez Marine Le Pen.
Il y a des survivalistes qui ont déjà préparé des attentats terroristes?
Bah justement, voilà, c'est une très bonne question parce que c'est exactement là qu'on arrive. Quand les gens, ils ont le sentiment qu'ils sont attaqués, qu'ils sont en danger quotidien et qu'ils associent ce danger à une population au point de préparer ce que j'appelle une guerre raciale, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par préparer des formes d'attaque, de violence, et donc ils finissent par rentrer eux-mêmes dans une forme de terrorisme. Ça s'est passé quand la dernière fois en France? Bah, c'était en 2018, le 24 juin 2018. On a 10 membres d'un mouvement d'extrême droite qui se faisait appeler Action des forces opérationnelles qui sont arrêtés. Ces gens, ils préparaient des actions terroristes contre des mosquées, des assassinats d'imams et des agressions de femmes voilées. On fait une perquisition de leur domicile. Qu'est-ce qu'on trouve? Une trentaine d'armes, des milliers de cartouches et, chez l'un d'entre eux, un laboratoire d'explosifs. Enfin, c'est terrifiant, t'imagines, un groupe comme ça constitué de plusieurs personnes armés avec des explosifs et qui reconnaissent hein, vouloir tuer des gens parce qu'ils sont musulmans. On leur demande pourquoi ils font ça. Un de leurs membres est interrogé par le journal Le Point. Qu'est-ce qu'il répond? Je te cite. Nous devions nous préparer à l'éventualité d'une guerre asymétrique révolutionnaire et donc nous entraîner. On est plutôt des survivalistes, pas des terroristes. Ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils se considèrent survivalistes? Parce que dans leur tête, les attaques prévues sont pas terroristes, c'est des actes de défense. Eux, ils pensent se défendre contre ce qu'ils appellent, et à nouveau je les cite, c'est quelque chose à laquelle je n'adhère pas du tout, mais c'est ce que eux croient, ils parlent d'une invasion arabo-musulmane. Et donc, ils se désidentifient totalement de la population française qui est issue de l'immigration, qui est musulmane, qui a le malheur d'avoir une autre couleur de peau qu'eux, et pour eux, ces gens-là sont un danger, sont des gens qui constituent une menace, il faut se défendre de cette menace, et ça autorise le recours à la violence contre eux dans leur tête. Et donc d'un coup, on voit comment le discours politique et médiatique de l'insécurité, et ce discours qui est relié à une forme de menace qu'on lit toujours à l'immigrant et à l'immigration, ben on en vient à produire en fait une violence qui est une violence concrète et quasiment une violence terroriste qui est une forme de terrorisme d'extrême droite.
Et ça, c'est donc la majorité du mouvement ?
Évidemment non, c'est vraiment une petite minorité. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est le problème, c'est que ces croyances, elles amènent quand même à ça. Les survivalistes que je rencontre, moi, c'est des gens qui sont très gentils, qui sont très polis, mais ils vivent complètement dans cette norme sécuritaire. Donc, ils portent en fait cette violence raciste dans leur peur. C'est quelque chose qui se pense par le ventre avant de se penser par la tête. Et donc, quand ils se préparent, quand ils stockent leurs armes, etc., etc., quand ils sont exposés au discours des autres survivalistes, quand ils lisent les livres du mouvement, ben, ça constitue de plus en plus cette certitude que cette guerre va arriver et qu'elle sera liée à des populations qui sont toujours liées à l'altérité. Et donc, ça peut conduire certains d'entre eux à faire preuve de violence et un jour peut-être à rejoindre des groupes, comme ce groupe-là terroriste dont je parlais tout à l'heure, qui vont faire du mal à des gens qui sont totalement innocents.
Thank you.
fait combien de temps, tu penses, que la mouvance survivaliste existe ?
Depuis très longtemps. Elle existe depuis très longtemps. C'est depuis les années 60 avec la guerre froide. Elle s'est extrêmement développée plus tard, dans les années 90. Elle a eu un regain avec le 11 septembre. C'est une communauté qui a toujours existé. Et c'est une communauté qui n'est pas forcément définie par un type de menace. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Donc si aujourd'hui la communauté est concentrée sur cette menace particulière de la guerre civile raciale, c'est parce qu'elle répond et elle réagit à un discours sécuritaire particulier.
Qui sont-ils, ces gens ? Une classe sociale est majoritairement représentée ?
Ben justement non, il n'y a pas une classe sociale qui est représentée plus qu'une autre, parce que la peur, c'est quelque chose qui transcende largement les groupes sociaux. Donc on a des gens de tous les milieux. On a là, moi je suis aux États-Unis, en train de travailler aux États-Unis en ce moment. Ben on a des millionnaires de la Silicon Valley qui se préparent à la guerre civile, comme on a des gens qui sont des étudiants ou des chômeurs, des gens qui sont confrontés à une forme d'insécurité sociale. C'est vraiment quelque chose qui traverse tout le spectre social, parce que c'est une peur, et cette peur, elle se partage, elle touche tout le monde. Et donc, on a une très grande communauté, et beaucoup de gens, en fait, aussi, n'en parlent jamais. Donc, ça peut être des gens avec qui vous êtes au bureau, des gens avec que vous voyez tous les jours, et qui ne vous diront jamais qu'une grande partie de leur vie est consacrée à se préparer à cet effondrement auquel croient les survivalistes.
Mathieu, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci de m'avoir invité à parler.
Voilà un bien triste paysage. À bientôt.